sur le Jura, lapin en triga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lorsque l'on parle de maternité, un des sujets qui revient souvent est le rapport au corps pendant et après la grossesse. Mathilde a connu l'anorexie lorsqu'elle était adolescente, à cause des injonctions à la minceur imposées en gymnastique rythmique et sportif, appelée GRS. C'est finalement grâce à un autre sport, la course à pied, qu'elle reprendra du poids et confiance en elle. Quelques années plus tard, lorsqu'elle ressent une envie soudaine de devenir maman, Mathilde ne peut s'empêcher de penser à la transformation que va connaître son corps pendant 9 mois et en postpartum. Car si les années sont passées depuis l'adolescence, son rapport particulier à la balance, lui, ne s'est pas totalement estompé. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte comment l'anorexie est arrivée en pleine adolescence, comment elle s'est dirigée vers la course à pied et sortie de son mal-être. Elle nous parle aussi du sport pendant la grossesse et de ses craintes sur le rapport au corps qu'aura sa fille en grandissant. Bonne écoute. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Enchantée de te recevoir, ça me fait plaisir.
Alors, on va repartir un petit peu en arrière, à l'adolescence.
Ouais.
Tu me disais que toi, tu avais connu l'anorexie.
Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'étais plutôt une ado bien dans sa peau jusqu'à 14-15 ans. Je faisais beaucoup de gym, de la gymnastique rythmique en compétition et tout. Enfin, voilà. C'était vraiment mon sport. J'étais passionnée par ça. Et puis, tout allait plutôt bien. Et puis, à l'adolescence, hein, comme tout le monde, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien. C'est vrai qu'en équipe, on avait assez la pression pour être tout un peu profilé, féminine et compagnie. Et puis, ma meilleure amie était anorexique. Enfin, elle était malade et un été, on est partis ensemble en vacances. Et elle m'a avoué qu'en gros, elle se faisait vomir voilà, ses repas et compagnie. Ça m'a un peu bouleversée sur le moment. Et au final, en fait, je suis un peu tombée dedans avec elle. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma tête, mais... Je sais pas, la prof de gym l'aimait bien, elle était mince.
Ah, elle faisait le même sport
que toi. Elle faisait le même sport que moi, on était dans la même équipe. Et puis, en fait, peut-être, je sais pas, à force d'être tout le temps ensemble, ça a un peu déteint sur moi et je me suis mise à vouloir maigrir. Après, j'étais déjà assez... à partir de 14 ans, j'étais hyper intéressée par tout ce qui était magazine sur les régimes, l'été, Cosmo, tout ça. Enfin bref, j'achetais des magazines, je faisais des régimes... Et puis, de fil en aiguille, j'ai pas mal perdu, mais assez progressivement. C'est-à-dire que jusqu'à la troisième, personne n'a tiré la sonnette d'alarme. Quoi. Je faisais toujours de la gym. Je suis descendue assez progressivement de, je dirais, 48 à 40 kilos. Et puis après, au lycée, c'est devenu un peu plus compliqué. Là, je suis descendue à 35 kilos. J'avais un suivi à l'hôpital. Et en fait, plusieurs fois, le pédiatre voulait m'hospitaliser et tout, mais... Je pense que j'ai toujours refusé, mes parents aussi, parce que on pensait que ça allait passer. Et puis voilà, après, je pense qu'il y a toujours un certain déni de la part de tout le monde dans ces cas-là. Ça a duré assez longtemps. Et un jour, le pédiatre m'a un peu mis un ultimatum. En gros, c'était l'été de ma première. Il m'a dit, en gros, à la rentrée, si t'es pas remonté au-dessus de 40 kilos, c'est l'hospitalisation. Et du coup, par chance, le service était fermé l'été. Donc je me suis dit, c'est l'année du bac. Moi, j'avais envie de passer mon bac comme tout le monde. Et c'est ça qui m'a un peu maintenue, quoi. Je voulais faire des études. Et donc, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses. Et l'été, j'ai pris 5 kilos. Et du coup, à la rentrée, j'étais un peu remise à flot. Et il a dit, OK, pour continuer un suivi, j'allais, je pense, une fois par mois à l'hôpital. J'avais une pédopsie pendant un moment aussi.
Ah oui.
Ouais, toutes les deux semaines, c'était une catastrophe. Je la trouvais nulle.
Ah oui.
Je la trouvais nulle. Mais sa salle d'attente était pas bien insonorisée, donc quand elle voyait mes parents d'abord et moi ensuite, j'entendais tout quoi. Donc je trouvais ça. Bref. Et puis petit à petit, ça allait mieux. Et je pense que vraiment l'envie de faire des études, ça m'a bien boosté l'année de la terminale. Et puis j'ai rencontré mon premier petit copain. Quand j'étais en terminale aussi, ça m'a un peu aidée quand même.
Tu faisais toujours de la gymnastique,
du coup? Alors, du coup, j'ai arrêté non, toute l'année de la première. J'avais même une contre-indication au sport au lycée, donc je faisais pas de sport au lycée. Et j'avais arrêté la gym. J'ai arrêté la gym en première, en classe de première, et puis après j'ai repris le sport au lycée en terminale pour le bac. Et puis voilà. Mais j'ai tourné la page de la gym.
Ouais. Mmh. Tu sais si vous étiez nombreuses dans ce cas d'anorexie dans l'équipe ?
Bah franchement, je pense toutes en fait. Hein.
Ouais.
Même sans que ce soit vraiment avoué ou explicite, mais franchement, quand t'as que des nanas qui font 40 kilos pour 1m65, il y a un problème quoi, franchement. Mais bon, voilà. Je pense qu'on s'en est toutes sorties maintenant. Donc,
ouais. T'as des nouvelles de tes amis?
Ouais, plus ou moins. Je les vois de loin, hein, sur Facebook, tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal qui avaient des soucis. Hein.
Et du coup, toi, t'as commencé le sport, tu disais, enfin, un autre sport en terminale ?
En terminale, du coup, j'ai pu reprendre le sport au lycée, pour le bac, parce que j'avais un poids qui était quand même convenable, même si, avec le recul, je pense que je faisais 10 kilos de moins que maintenant, donc c'était pas encore ça, mais ouais, j'ai fait... la natation, l'escalade pour le bac, tout ça, mais je faisais pas de sport à côté. J'avais pas encore le droit de faire du sport à côté. Même si de temps en temps, discrétos, j'allais courir le soir. Mais... voilà. Et puis voilà, j'ai repris le sport, surtout en première année de médecine, je me suis remise à courir. Ah, en première année de médecine, n'importe quoi, en deuxième. La première année de médecine, c'était plutôt un tunnel sans fin, avec aucune vie sociale ni aucune activité. Extrascolaire, on va dire. C'était métro, boulot, dodo. C'était que ça pendant un an. Mais en deuxième année, ouais, je me suis dit, là, je vais mieux. J'ai passé mon concours. Je vais trouver un sport. J'avais 20 ans. Okay. 19-20 ans, ouais. 20 ans plutôt. Je me suis dit, je vais me trouver un sport qui est facile, qui coûte pas cher. Parce que quand t'es étudiant, t'as pas trop les moyens d'aller dans une salle de sport. Et t'as pas trop le temps d'être en club, surtout. Donc je me suis acheté une paire de baskets et je me suis mise à courir le matin, 3 fois par semaine. Je me souviens, c'était un peu dur au début, des fois je mettais le réveil et je me levais pas. Je me souviens, mon ex-copain me disait « Mais t'y es pas allée ce matin, du coup, t'avais mis le réveil et tout ?» Je dis pas « Non !» J'avais la flemme. Et au début, je courais 15-20 minutes et puis petit à petit...
Avec un objectif particulier ou c'était juste prendre soin de toi, de
ton corps ? C'était prendre soin de moi parce que il y a eu quand même un moment où quand j'ai... Du coup, j'ai fait un an sans sport en première année de médecine et quand je suis arrivée en deuxième et que j'avais beaucoup de temps libre, parce que quand on est en deuxième, troisième année de médecine, c'est 2 années où vraiment le temps libre, tu sais pas comment faire quoi. C'est ouais. Le jour et la nuit par rapport à la première année. Je me suis dit quand même là, tu t'es un peu laissé aller, bon, j'étais quand même encore un peu dans le contrôle et tout. Hein. Je faisais 45 kilos et je me trouvais grosse donc. Je me suis dit là, faut quand même te retonifier un peu, va courir. J'habitais pas loin du jardin du Luxembourg. Ça a l'air classe comme ça, mais en vrai, on était dans un 20 mètres carrés sans fenêtre, à deux. Donc... et sans réseau, dans une... Enfin bref, c'était une grotte. Et j'avais pas d'objectif au début, et très vite, je me suis dit, je vais m'inscrire à un 10 km. C'était l'époque où il y avait encore les courses Nike pour les femmes. Mmh. Il y avait des 10 km comme ça. Et je m'étais inscrite, c'était au mois de mai, j'avais commencé à courir en septembre, et puis je l'ai fait. Et puis, c'était l'époque où vraiment ça m'intéressait à fond. Et je m'étais dit, allez, l'année prochaine, le marathon. Donc en septembre de l'année d'après, au bout d'un an, j'ai fait un semi. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait le marathon de Paris. Wow. Ça m'a rendu accro très vite. Ouais. Et ça m'a permis surtout de retrouver un équilibre et de manger plus. Mmh. Et de reprendre encore un peu plus de poids, bizarrement.
T'avais un suivi avec les...
Plus du tout.
Avec des médecins ?
Non, plus du tout. C'était... J'étais lâchée dans le grand bain et... En fait, à partir du moment où j'ai eu mon bac et je suis allée faire mes études à Paris, j'étais considérée comme guérie, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais j'avais énormément de restrictions. Il y a beaucoup d'aliments que je ne mangeais pas, mais je gardais mon poids stable. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je n'étais pas totalement sortie d'affaire. Je pense que pendant toute ma première année de médecine, j'ai mangé la même chose tout le temps. Je mangeais que des légumes. J'avais une peur panique des féculents et de la pizza et tout ça, mais bon. J'avais quand même une vie normale, quoi.
Et alors après, tu as rencontré ton chéri actuel ?
Ouais, je suis restée 7 ans avec mon ancien petit copain, jusqu'à En fait, les 7 premières années de médecine, c'est des études un peu... Hein, t'as des stages et t'es à la fac. Et au bout de 7 ans, tu passes le concours de l'internat, qui est le concours qui détermine ta spécialité et ta ville. Et en fait, c'est un concours suivi toute la France, donc t'as 8500 étudiants.
D'accord.
Donc c'est pas mal de pression quand même. Donc pendant 7 ans, t'as un peu la tête dans le guidon, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Moi, je faisais beaucoup de sport hein, pendant ces 7 années. J'ai fait 4 marathons... J'ai fait mon premier triathlon. Et en fait, quand j'ai eu passé mon concours, je l'ai quitté. C'est un peu le schéma un peu classique, mais je me suis dit, en fait, ça va pas, quoi. Ma vie, elle va pas du tout. Donc là, je l'ai quitté. Ça a été assez libérateur pour moi. C'est-à-dire qu'en un été, je pense que j'ai rattrapé toutes les années où j'étais étudiante, où j'aurais pu sortir et tout, mais où, comme on était en couple, on était tous les deux dans nos études à fond. Mm. On faisait rien en fait hein. Et là j'ai fait pas mal de choses pour moi surtout avant de rencontrer mon copain actuel. C'était très condensé sur 2-3 mois, mais j'ai eu un été voilà, j'ai fait des courses dans le désert, j'ai fait des marathons des sables, j'ai fait des triathlons, je suis partie tout seule en vacances au Japon en réservant les billets 3 semaines à l'avance, et j'ai fait plein de trucs pour moi en fait, et ça m'a vachement libérée, j'ai pris du poids encore. Et là, je pense que c'est vraiment cet été-là où je me suis dit, waouh, là, je pense que j'ai tourné une page, quoi. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, en novembre, donc l'été a été foufou. Et j'ai commencé mon internat en novembre. Et j'ai rencontré mon copain en décembre, mon copain actuel.
Tu l'as rencontré à une course ou pas du tout ?
Non, je l'ai rencontré sur Tinder.
Ah oui.
Comme quoi, ça marche. Et lui, il n'était pas du tout course à pied, tout ça. Lui, il fait du ping-pong.
D'accord.
Et de la muscu, mais rien à voir. Le ping-pong est un vrai sport. J'ai découvert ça avec lui. Désolée pour les pongistes qui écoutent, mais c'est un vrai sport, très sportif d'ailleurs. Voilà.
Elle rigole.
Il y a la petite qui rigole du ping-pong.
Tu te moques de papa.
C'est ça. Et donc, ouais, je l'ai rencontré sur Tinder, mais bon, quand on dit qu'il faut être prêt psychologiquement pour rencontrer le bon, il y a un peu de vrai quand même.
Et alors, du coup, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité entre vous ? Est-ce que toi, déjà, tu y avais pensé plus jeune ?
Alors, pas trop. Moi, j'étais pas trop attirée par les bébés. J'étais pas... Quand je voyais un bébé et tout ça, j'étais pas, bon... hyper attirée à le prendre dans mes bras, vouloir m'en occuper. Voilà, j'aimais bien les enfants, j'étais assez maternante, je pense, dans mes relations de couple et dans mes relations amicales, mais voilà, je suis un peu la copine qui fait des gâteaux quand on est en vacances et qui boit pas beaucoup et qui ramène les gens en soirée et qui s'occupe des autres, mais les bébés, non, ça m'a jamais... Je voyais ça vachement comme un frein, en fait, au fait de faire du sport, et puis j'avais aussi peur de la grossesse, j'avais peur de prendre du poids... Je m'étais toujours dit, waouh, la grossesse, je vais reprendre 10 kilos, est-ce que je vais réussir à gérer ça ? Est-ce que je vais pas paniquer ? Est-ce que je vais pas revouloir maigrir alors que je suis enceinte ? Enfin, j'avais un peu peur de la réaction que je pouvais avoir vis-à-vis de mon passé.
Mais t'y pensais du coup, ça, avant même de...
Ouais, j'y pensais, c'était dans un coin de ma tête. Je me disais, bon, un jour, faudra que j'accepte que mon corps va rechanger pour un bébé. J'y pensais quand même, j'en voulais des enfants, mais j'étais pas hyper prête tout de suite. Donc on a eu un an de relation avec mon chéri actuel. On a bien profité. On a fait pas mal de voyages, on a fait une dizaine de voyages. Alors que moi, avant, je voyageais pas du tout. On est allé au Costa Rica, on est allé à Tahiti, on s'est bien fait plaisir. J'ai fait beaucoup de sport. Je m'étais dit que je voulais absolument faire un Ironman avant de tomber enceinte. Parce qu'on va pas se mentir, là, maintenant, je me vois pas du tout repartir dans un entraînement 15 heures par semaine, quoi. Donc, j'ai fait mon Ironman avec mon chéri sur le bord du terrain qui m'encourageait et tout. Et après, là, j'ai vraiment eu envie. Déjà, j'ai eu envie au bout d'un an, on était ensemble. Ça m'a vraiment pris un matin. On était à Liège et c'était pour fêter notre un an de relation. Et je me suis dit, en fait, là, vraiment, je veux trop un bébé, quoi.
Ouais, c'est arrivé d'un coup.
C'est un an qu'on était ensemble, et j'ai dit, là, je le veux tout de suite.
Parce que t'avais quoi, 26 ans ?
Ouais.
Ouais.
Mais bon, je suis un peu impatiente. Et quand je veux un truc, en plus, je suis un peu... Ouais, la patience, c'est clairement pas mon fort. Quand je veux un truc, je le veux tout de suite. Donc j'en ai parlé tout de suite et je lui ai dit écoute, je pense qu'il faut que j'arrête la pilule parce que du fait de l'anorexie et tout ça, en fait, moi j'avais jamais eu mes règles.
Ah oui?
Ouais. Et comme j'avais un petit copain quand j'étais ado, on m'avait mis sous pilule à 18 ans, enfin 17, 18 ans, mais j'avais jamais eu mes règles en fait. Et donc, mes gynécos m'avaient toujours dit quand on voudrait un bébé, il faudrait peut-être essayer d'arrêter la pilule pour voir ce qui se passe, quoi.
D'accord.
Donc j'avais toujours ça dans un coin de ma tête, de genre, faudrait que t'arrêtes la pilule pour voir ce qui se passe, parce que ça se trouve, enfin, je sais pas. Donc je lui ai dit, écoute, je vais arrêter la pilule. Il m'a dit, ok, de toute façon, si tu tombes enceinte, c'est pas grave. Enfin, je veux rester. Enfin, il voulait un enfant aussi, pas tout de suite. Hein. Mm. Ça faisait un an qu'on était ensemble, mais il m'avait dit, y a pas de souci, c'est toi la femme de ma vie. Voilà. Il était sûr, bon, ok. On se protégeait quand même, hein. On n'était pas prêts ni l'un ni l'autre tout de suite. Hein. Et donc pendant un an, j'ai pas pris la pilule. J'ai attendu, je crois, 4-5 mois avant d'avoir mes règles. Donc là, c'était 5 mois de tests de grossesse toutes les deux semaines. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'angoisse. Enfin, j'ai dû faire, je pense, 50 tests de grossesse au bas mot.
Ouais.
Et puis un jour, c'est revenu comme ça, après les vacances au Costa Rica. Forcément, quand on est détendu, je pense qu'il y a une grosse part de mental. Et donc, voilà. Mais j'avais des petits soucis hormonaux quand même, je pense, parce que j'avais des cycles très très longs. Des fois, 80 jours, 60 jours.
Ah oui?
Ouais, ça laisse le temps de se poser des questions pendant 60 jours, hein. Donc ça laisse le temps d'acheter des tests. Moi, ça me rendait ouf, hein. J'étais là, oh là là, mon corps fonctionne pas, j'aurai jamais d'enfant, enfin bref.
T'allais voir les gynécos, enfin ton gynéco?
Ouais, ouais, j'avais pas vraiment de gynéco, du fait qu'on a déménagé en fait dans la maison là, en banlieue, j'avais plus vraiment de suivi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une ordonnance et je me suis prescrit une échographie. Parce que je me suis dit, il faut que je vois s'il y a un souci sur mes ovaires et tout ça. Je suspectais un petit peu un syndrome des ovaires polykystiques. Et j'ai fait une échographie et la radiologue me dit, oui, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ok. Donc moi, j'étais un peu triste. Je suis rentrée en pleurant.
Alors, c'est quoi ça exactement?
Bah, alors, en fait, normalement, c'est un syndrome qui ne se diagnostique pas du tout sur une échographie seulement. C'est un ensemble de signes cliniques et échographiques. Donc ça comprend des cycles irréguliers, donc ce que j'avais. Un aspect échographique avec des petits kystes sur les ovaires qui sont en fait des ovocytes, donc des œufs bloqués, en fait, qui immaturent tous en même temps. Mmh. Et il n'y en a aucun qui sort, donc en fait on n'ovule pas. Normalement tous les mois, il y a un des ovocytes qui grossit et qui sort, et c'est l'ovulation. Et ce syndrome-là, en fait, ils grandissent tous en même temps, c'est lié à un dérèglement hormonal et... Il n'y en a aucun qui sort, en fait. On ovule, en fait, on ovule trop et du coup, il n'y a rien qui sort vraiment de l'ovaire et on n'ovule pas vraiment, quoi.
D'accord.
Donc, ça fait des cycles très longs, très irréguliers. Mais normalement, c'est associé à des signes cliniques qui sont de l'acné, un hyperandrogénisme, pardon. Donc, c'est souvent une pilosité un peu importante, de l'acné sévère, des choses comme ça que j'avais pas vraiment, mais que j'avais à l'adolescence pour le coup. Et donc moi, je suis partie en me disant, c'est mort quoi, il va falloir que je prenne un traitement. Donc j'étais vraiment dépitée. Je suis rentrée en pleurant, mon mec était persuadé que j'avais un truc grave. Et lui, il est plutôt du genre à dire que rien n'est grave et que tout va aller, hyper optimiste. Moi, je suis hyper, un peu hypochondriaque, hein. Les études de médecine, ça aide pas du tout. Et donc il m'a dit, écoute, c'était au mois d'août de l'année dernière, il y a pile... un an presque. Il m'a dit, écoute, c'est simple, on va... Il me dit, moi, je voulais attendre encore qu'on soit en 2020 pour faire des essais bébés, mais on va y aller maintenant, et puis tu vas voir, ça va marcher. Et comme ça, t'arrêteras de stresser. Et j'ai dit, ok. Donc, on est parti fin août en vacances, et le 1er septembre, j'étais enceinte.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc voilà, il a encore eu raison sur le fait que j'étais trop stressée.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse?
Alors, super, franchement. Franchement, c'est très bien. Je m'attendais à avoir des nausées, je m'imaginais le pire, forcément, en écoutant beaucoup d'histoires de copines et tout, on s'attend toujours à avoir la totale. Et là, ça n'a pas été le cas, donc j'ai plutôt bien vécu le premier trimestre. Après, j'ai appris ma grossesse, j'étais enceinte de 11 jours. Donc, autant te dire que la grossesse a été très très longue, parce que quand on l'apprend dès le début, ça fait quand même 9 mois plein. C'est un peu long, surtout à la fin. J'ai pas eu de nausée, le premier trimestre s'est bien passé. J'ai eu une semaine horrible où j'ai vomi, mais j'étais en congrès à Chicago, un congrès sur le cancer du sein. Et j'ai passé, c'était dans un hôtel, et j'ai passé, je pense, la semaine dans mon lit. Et je partageais, en fait, j'avais eu ça grâce à une bourse d'études, et du coup, j'étais avec une autre étudiante italienne. Et en fait, je pense qu'elle a pas compris. Elle a dû se dire, mais c'est quoi cette nana qui passe... On a un super congrès à Chicago et elle est dans son lit depuis une semaine. Et en fait, j'allais le matin au truc. Il y avait un petit déj en plus, donc avec les odeurs et tout. Et vers 10h, je retournais dans ma chambre, je vomissais, je me remettais dans le lit. Et au bout de 3 jours, elle me dit, ah, t'es enfin sortie du lit. Et en fait, elle parlait français. Et moi, je n'avais pas cramé qu'elle parlait français. Donc on a passé 3 jours à se parler en anglais approximatif. Et en fait, elle parlait français. Enfin bref. Et elle m'a filé du Primperan, qui est un médicament pour les nausées, qui est autorisé pendant la grossesse. Et ça m'a sauvé la vie, quoi.
Oui.
Parce que j'étais allée dans une pharmacie aux États-Unis, mais ils ne comprenaient rien. Enfin, ils ne voulaient rien me donner, sans ordonnance. Enfin, c'était, voilà. Et c'était la semaine horrible. Et après, c'est passé. C'est passé nickel.
Et alors, toutes les questions que tu avais, justement, plus jeune, quand tu t'imaginais devenir maman, comment ça s'est passé à ce moment-là?
Le premier trimestre, c'était un peu compliqué. Il y a eu 2-3 crises de larmes où je revenais dans la chambre le matin en disant « Je me suis pesée, j'ai pris 2 kilos
ouais. !»
Et mon mec a totalement déconcerté, genre « C'est normal, t'es enceinte !» Oui, je sais. Et en fait, c'est vrai que le premier trimestre, quand t'as un peu le ventre qui sort, mais qui est pas rond, quoi. Donc, tu rentres plus dans tes jeans, mais en même temps... C'est trop tôt pour les jeans de grossesse. Là, c'était un peu... Ouais, je me sentais un peu pas bien, quoi. Et puis, en plus, tu pouvais le dire à personne. Après, moi, j'ai cette chance de... Au boulot de... Enfin, cette chance et cette malchance, je sais pas, mais de devoir le dire tout de suite. Parce que j'étais en stage en médecine nucléaire, donc il y a des produits radioactifs. Donc, en gros, il faut le dire tout de suite. Il faut aller voir la médecine du travail et tout. Et moi, je suis en radiothérapie, en général, donc c'est pareil. Il faut le dire tout de suite. Donc tous mes collègues étaient au courant, et puis bon, en médecine, on est plus à l'aise de dire ces trucs-là, je trouve, assez tôt. Donc ça allait, tu vois, mes collègues le savaient, donc c'était assez cool, il y avait du soutien et tout, mais les amis et tout, c'était compliqué, quoi. Je me sentais un peu fat, alors que je sais que c'est normal, hein, mais il y a le cerveau qui est... J'ai l'impression d'avoir 2 cerveaux, des fois, quoi. Et ouais, on est allé à un mariage d'un copain à Budapest. Et là, c'était horrible parce que c'était fin septembre, donc j'étais enceinte depuis 3 semaines et fallait le dire à personne. Il y avait tous nos potes et du coup, je pouvais pas boire. Et par chance, le marié me contacte, car un pote hein, me contacte 5 jours avant le mariage et me dit « Écoute, toi, tu bois pas souvent ?» Parce que je bois en général pas souvent avec les triathlons et tout. Il me dit « Est-ce que tu veux bien nous raccompagner le soir du mariage raccompagner les mariés chez eux, quoi ?» Parce qu'en plus, on dormait chez eux. Je dis « Bon, bah ok, parfait, ça me fera un alibi, nickel, quoi. » Et donc, ça s'est bien passé grâce à ça. Mais c'est vrai que j'avais mis une robe large et tout, mais j'avais un petit bidon. Ça se voyait quasiment pas hein, pour les gens, mais pour moi, c'était le jour et la nuit, quoi. Puis je me suis mise à avoir de la poitrine. Moi, j'avais toujours été plate comme je sais pas quoi, et j'adorais ne pas avoir de poitrine. C'était le rêve, quoi. Bizarrement. Et donc, ouais, j'étais un peu mal le premier trimestre. Et puis après, ça a roulé tout seul, quoi. Quand j'ai eu le ventre bien rond et tout, je me suis dit, bah écoute, c'est mon corps, je suis enceinte... Au contraire, j'étais hyper... je détestais être ballonnée dans mes jeans et tout, être un peu serrée. Là, avec le ventre, il n'y avait pas de débat, quoi. C'était jean de grossesse, j'ai mon ventre et puis point barre. Et du coup, je me sentais vachement mieux. Et le deuxième trimestre, c'était génial, comme beaucoup. Hein. Les hormones et tout, c'était trop bien, quoi.
Et tu n'avais pas peur de l'après au niveau de ton corps, justement ?
Si, si. Alors ça, si, si, j'avais... En fait, j'ai pu faire du sport pendant toute ma grossesse. J'ai fait pas mal de natation, j'allais... Franchement, je faisais 5-6 séances de sport par semaine. Je faisais du vélo d'appart. J'ai couru jusqu'à 6 mois. Après, j'ai arrêté parce que je me disais, franchement, là, c'est pas très bon pour ton périnée. J'avais envie de faire pipi au bout de 5 minutes, donc c'était un peu gênant. C'était pas agréable, quoi. Ça pesait. Donc, je me suis mise plutôt à nager et à faire du vélo. Mais j'ai eu du bol, quoi. J'ai pu continuer jusqu'à très tard. Mais j'avais peur de l'après, justement, de quand t'accouches et que tu dois attendre de faire ta rééduque et que t'as un bébé, que t'es fatiguée. J'avais peur de voir mon corps après l'accouchement, d'avoir le ventre, de plus avoir cette excuse d'être enceinte et de... Je trouve que les gens sont assez intransigeants une fois que t'as accouché, personne sait que t'as accouché, quoi. T'es dans la rue, t'es en maillot de bain sur la plage, ça devrait pas rentrer dans la balance et ça devrait même pas être un sujet, mais ça l'est, quoi. Donc
Oui, toi, t'as tes démons en plus ouais. de l'adolescence avec l'anorexie.
J'avais peur vraiment de me sentir mal et tout. Mais puis j'avais peur de déprimer, de faire une dépression du postpartum. Je sais pas pourquoi. Ça sort de nulle part, mais j'avais peur de ça. Ça m'angoissait, quoi. J'avais peur de...
Tu penses que ça a fait ressortir un peu ta fragilité, justement, ouais. de l'adolescence ?
Ouais, ouais. Puis je pleurais beaucoup le dernier trimestre avec le confinement et tout. Je pleurais tous les jours. Les trois dernières semaines, c'était assez dur. Mon mec était en télétravail, pourtant, donc j'avais du bol. Il était là, mais il bossait. Moi, j'étais toute seule, là-haut. Non. Je bouquinais, je faisais des trucs. Mais à la fin, j'avais aussi un col qui était ouvert. Donc, il m'avait dit, bon, le vélo, mollo. La piscine, je pouvais plus y aller parce qu'on était confinés. Donc, je me sentais pas bien, quoi. J'avais l'impression de... J'ai besoin de bouger, quoi. En fait, dès que j'arrêtais de bosser et qu'on était confinés, ça coïncidait un peu au même stade. C'est-à-dire que le confinement, c'était... le 16 mars et j'ai arrêté de bosser le 11 mars quoi, donc c'est vrai que les deux en même temps là, je tournais en rond dans la maison. Puis dès qu'on a été au mois de mai, j'avais envie d'accoucher quoi.
Ouais.
Donc tous les soirs à 18h je pleurais parce que j'avais pas accouché. Ce qui est absurde parce qu'en plus je sais qu'il faut que c'est mieux pour son bébé de rester dedans quoi, plus il reste mieux c'est, mais j'en pouvais plus quoi. J'avais des contractions toute la journée. Vraiment. Et donc tous les jours, je me disais, c'est aujourd'hui, là, je contracte. Et en fait, non. Et donc, ouais, la fin, ça a été un peu dur. Et j'avais peur j'étais tellement déprimée que j'avais peur de déprimer après. Et de voir mon corps et de déprimer encore plus, quoi. Et au final, ça s'est fait, hein.
Et donc, ça s'est fait pendant le confinement.
Ça s'est fait, ouais.
Juste à 2 jours du déconfinement.
Ouais. Deux jours après le déconfinement, ouais. Ouais, quelques jours après le déconfinement, et finalement j'ai accouché 16 jours en avance. Donc,
est-ce que t'angoissais justement de cette atmosphère un peu anxiogène du confinement pour ton accouchement, de pas être avec le papa?
Ouais, il y a eu toute une période. En fait, je voulais essayer d'accoucher sans péridurale, mais je l'avais pas trop dit. J'avais pas vraiment écrit de projet de naissance parce que je sais pas pourquoi, mais enfin. Je voyais pas l'intérêt de dire que je voulais pas d'épisio, tout ça, parce qu'en vrai, les médecins, enfin, moi, je suis un peu de l'autre côté, je sais très bien que les sages-femmes et les médecins ont pas envie de faire d'épisio, ont pas envie d'utiliser l'instrument, ont pas envie de faire de césarienne. Ils ont envie que tout se passe bien, donc je voyais pas trop l'intérêt de l'écrire. Et je voulais pas dire trop fort que je voulais pas de péridurale, parce que j'avais un peu peur de craquer et qu'après on me dise. Enfin, j'avais peur de tomber sur une sage-femme qui soit pas sympa, qui me dise. Ah bah vous aviez dit que vous n'en vouliez pas, maintenant vous en voulez une, enfin voilà.
Alors que sentiment d'échec.
Ouais, sentiment d'échec, alors que ça se passe pas du tout comme ça, en général ils sont hyper sympas. Et donc j'avais peur que mon mec soit pas là, parce que quand tu veux accoucher sans péri, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de toi et qui te tienne la main quoi. Enfin, toute seule, respect à celles qui le font. C'est faisable, mais bon voilà, j'avais lu tous les livres qui existent et tout. Et j'avais peur, j'avais pas tellement peur du Covid moi, parce que je l'ai eu de toute façon je pense. Je suis quasiment sûre de l'avoir eu quand j'étais enceinte. Parce que j'ai pas eu de goût ni d'odorat pendant un mois et demi. C'était très chiant, c'était très déprimant. Ça aussi, comme j'aime bien cuisiner, ça a un peu accentué ma tristesse du confinement. Là, je tournais en rond avec mon gros bide, je pouvais pas cuisiner, je pouvais pas manger de chocolat, ça avait aucun goût, enfin bref. Et donc, j'avais pas tellement peur du Covid, mais j'avais peur de devoir accoucher avec le masque, que mon mec soit pas autorisé, que je fasse le séjour toute seule... Puis même pour lui, c'est important, je pense, pour les mecs, de voir l'accouchement, de pas avoir laissé sa femme à la porte de la maternité et de la voir revenir 3 jours plus tard avec un bébé dans les bras. C'est quand même dur, quoi. Et donc non, j'avais pas trop peur de l'atmosphère Covid, mais j'avais peur que mon mec puisse pas être là. Et au final, il a pu être là, donc c'était cool. Voilà. Donc moi, j'ai accouché un soir. On est allé à la maternité à 3h30 du matin. Moi, j'avais des contractions depuis le matin, mais ça a commencé à devenir un peu sévère vers 2h. J'ai fait tout ce qu'il fallait, la baignoire, le space-fond, le ballon et compagnie. J'ai réveillé mon copain qui dormait depuis 1 heure, parce qu'on s'était couché hyper tard, je sais pas pourquoi. Et qui était un peu totalement dans le gaz, quoi. Et qui m'a dit, moi, ça faisait 2 heures que je tournais en rond dans la maison, et là, ça commençait à devenir un peu difficile à gérer. En fait, j'avais envie de vomir pendant les contractions, donc je me disais, là, c'est pas comme d'hab. Donc je le réveille et il me dit, non mais on va attendre encore un petit peu là, parce que je pense qu'on peut attendre encore un peu. J'ai dit non, là, on n'attend pas. Franchement, ça fait 2 heures, moi, que je tourne en rond, on y va, quoi. Donc, il se réveille. Bien sûr, mon mec est très last minute hein, pour les voyages, c'est pareil. C'est toujours. Non, mais on réserve pas d'hôtel, on verra sur place. Et donc, il me dit je fais quoi ? Je dis bah, tu mets la valise dans la voiture et puis on y va, quoi. Il me dit mais faut que je me fasse un sac. Je dis non, mais t'inquiète, ton sac, je l'ai fait déjà, c'est bon, quoi. Et donc il met les valises et tout, et là il me sort, je prends quoi ? Je dis, bah je sais pas, je m'en fous. Et il me dit, est-ce que je prends un caleçon ? Je dis, oui, prends un caleçon. Et il me dit, est-ce que je prends un truc à manger ? Je sais pas, je prends le saucisson. Enfin, en plus je mange pas de viande et tout, enfin je dis, oui, prends ton saucisson si tu veux.
Et priorité.
Priorité, voilà, de mec. Et donc on roule, on avait quand même 30 minutes de trajet, puisque je suis en banlieue et j'ai accouché à Saint-Joseph. On arrive et il me largue devant la maternité pour le temps de trouver une place. Et en fait, il n'avait pas le droit de rentrer au début.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Là, tu savais qu'il pourrait rester ou pas ?
Bah, pas vraiment, parce que j'avais pas eu de rendez-vous depuis un petit moment. Et puis, j'avais pas appelé parce que j'étais un peu dans le déni. Je voulais pas savoir. J'avais trop peur qu'ils me disent non. Parce que sur le site de la maternité, il y avait écrit accompagnant non autorisé, quoi. Et l'interne, au dernier rendez-vous, m'avait dit que si, il pouvait être là pour l'accouchement, mais qu'après, il fallait qu'il parte. Et donc, moi, en fait, quand je suis allée accoucher, je pensais qu'il ne serait pas autorisé pendant le séjour. Parce que c'était ça, les dernières nouvelles. Et donc, ils me laissent devant la maternité, et ils me disent... Donc, je suis accueillie par une aide-soignante et tout. Moi, j'avais un masque, qui venait de la maison, d'ailleurs, que j'avais préparé. Et elles me disent, on vous fait l'examen d'urine, on vous prend l'attention, tout ça, on vous met en salle de travail et on attend que la sage-femme vienne vous voir pour confirmer que vous êtes bien au travail. Et à partir de là, il pourra rentrer. Donc lui, il est resté en salle d'attente. Moi, je suis restée 15-20 minutes toute seule dans une salle en attendant la sage-femme. Et ça allait pas du tout. Donc là, j'ai sonné, la sage-femme est arrivée tout de suite. Donc en fait, j'aurais dû sonner dès le début. Et elle m'a dit, je vous examine pour confirmer que vous êtes en travail. En fait, j'étais dilatée à 4 cm, donc elle m'a dit c'est bon, votre conjoint peut venir. Donc elle allait le chercher et tout, elle nous a installés. Mais il y a quand même eu un moment où il est resté tout seul pendant 20 minutes à attendre, quoi. Et donc elle nous a dit à ce moment-là qu'il pouvait rester pendant l'accouchement, qu'il pouvait rester jusqu'à 2 heures après en salle de naissance, ce qui était un peu les recos pour toutes les maternités en France. Et après on n'était pas encore au courant qu'il pouvait rester pendant le séjour, mais elle nous l'a dit pendant l'accouchement. Elle nous a dit qu'il pouvait rester pendant le séjour et tout. Donc moi, j'ai commencé à accoucher. On est arrivé là-bas. Elle m'a installée en salle de travail. Il était 4 heures. Et en fait, ça allait assez vite. Et donc...
Donc ton projet de sans péridurale ?
Ouais, alors projet sans péridurale. Donc j'arrive, elle me dit, est-ce que vous avez un souhait particulier pour cet accouchement ? J'ai dit, bah écoute, je vais essayer d'accoucher sans péridurale, mais... Franchement, je sens que c'est mal barré parce que vraiment là, je suis déjà au bout de ma vie, je suis dilatée à 4 cm et moi j'avais en tête 1 cm par heure parce que c'est ça dans les livres quoi. Mmh. Donc j'étais là en train de compter et tout et je me dis waouh, encore 6 heures. Encore 6 heures comme ça là, c'est pas possible quoi. Donc elle m'a apporté un ballon, une bouillotte, mon mec qui essayait de m'appuyer dans le dos comme la sage-femme nous avait dit, mais en fait on avait fait qu'un seul cours de prépa à l'accouchement en visio parce que confinement. Donc en visio, ça avait l'air très simple, mais là, quand t'as tes contractions et que t'es au bout de tes vies, c'est pas du tout pareil. Donc, je l'ai un peu envoyé bouler, quoi. Je disais, non, mais arrête de me touche pas le dos, là, en fait, ça sert à rien. J'ai essayé à 4 pattes, j'ai essayé de me mettre sur le lit, de me mettre allongée, enfin. Et au bout de. Je sais vraiment pas combien de temps ça a duré, mais au bout d'un moment, j'étais incapable de partir en train de vomir. J'avais tellement mal que, à chaque contraction, j'avais des nausées et j'ai vomi. Avec le masque, c'était sympa. Donc j'ai enlevé mon masque, j'ai vomi et tout. Et, parce que j'avais bu forcément 1 litre d'eau dans la voiture, parce que souffler et tout, ça te donne soif, quoi. Mmh. Et là, donc mon mec qui éponge l'eau par terre, qui appelle la sage-femme, et au bout de 5 minutes, il me voit comme ça, et il me dit « Mathilde, je me sens pas bien, je crois que je vais faire un malaise, ça m'angoisse de devoir crier comme ça. C'est horrible de devoir souffrir, je me sens pas bien. » Donc lui, par terre, les jambes en l'air, la sage-femme qui lui dit « Mettez les jambes en l'air, monsieur, vous faites un malaise vagal. » Et moi par terre en train de vomir, et la sage-femme qui dit non mais c'est normal, ça c'est la douleur. Et là j'ai dit ouais bah appelez l'anesthésiste parce que franchement c'est mort en fait, j'arriverai pas, je sais pas, c'est pas des conditions pour accoucher quoi, genre vraiment je me suis dit je vais pas y arriver quoi. Et donc mon mec essayait de me raisonner quand même de l'autre bout de la pièce avec les pieds en l'air, il me disait mais Mathilde tu m'avais dit tu m'as dit de te convaincre et tout, de te pousser et tout, de te soutenir, mais là, tu veux la Berry, t'es sûre, attends un petit peu, t'avais dit dans la voiture qu'il fallait que tu demandes 5 fois avant de craquer et tout. J'ai dit, franchement, elle a oublié le truc, mais va chercher l'anesthésiste tout de suite, quoi, genre, je ne peux plus. En fait, je pensais qu'on avait plus de temps de récup entre chaque contraction. On m'avait dit 2-3 minutes, mais en fait, 3 minutes, quand t'as mal, ça... Puis en fait, tu la sens redescendre et tu la sens remonter. Et donc, en fait, pendant les 3 minutes, t'as quand même un peu mal, quoi.
D'accord.
Et t'as pas du tout de temps de récup. Et c'était... Enfin, bref. Donc, l'anesthésiste arrive au bout de 20 minutes. L'interne d'aneste me pose la péridurale. Ça marche tout de suite. J'ai l'impression que ça marche, mais immédiatement. Et c'était trop drôle parce que mon mec était là genre « Allez, t'inquiète, il va te poser la péri, ça va aller mieux et tout, tout de suite. » Et l'anesthésiste derrière, il était là genre « Non, non, pas du tout. » Il lui faisait des signes genre « Non, non, elle va encore avoir des contractions douloureuses pendant au moins 30 minutes. » Et moi, j'ai eu l'impression que ça allait marcher tout de suite, quoi. Et à partir de là, c'était trop bien, quoi. On était tous les deux, on se parlait, on rigolait. Et en fait, donc l'anesthésiste m'a posé la péri et la sage-femme m'a examinée tout de suite après. J'étais à 8 cm. Donc voilà. Donc, et puis une demi-heure après, j'étais à dilatation complète. Et puis après, il y avait un truc que je savais pas du tout, même en étant médecin, en ayant lu les livres et tout. Mais en gros, elle m'a dit, bah là, vous êtes à dilatation complète, mais faut attendre que le bébé descende dans le bassin. Mmh. Et j'étais là, mais quoi, faut attendre? Elle dit, bah là, je vous laisse sur le côté, une patte en l'air dans l'étrier, et puis vous attendez qu'elle descende. J'étais, mais elle était hyper basse toute la grossesse, tout le monde me faisait flipper, je me suis même fait arrêter avant et tout, parce que j'avais le col ouvert avec la tête qui appuyait sur le col. Et en fait, là, t'attends pendant une heure. À chaque contraction, tu sens un truc hyper désagréable qui pousse et tout. Et elle m'avait dit, vous m'appelez quand vous avez besoin de pousser. Parce qu'au final, j'avais la péri, mais je sentais quand même assez bien. Et du coup, elle est partie. Et au bout de 10 minutes, je sonne, je dis, là, je crois qu'il faut que je pousse. Elle me dit, moi, non, on va attendre encore un petit peu. Donc elle repart 10 minutes. Je dis, non, mais là, il faut que je pousse vraiment. Et en fait, elle me dit, ah oui, c'est bon, ok, d'accord. Donc elle m'installe et tout. Et après, bon, j'ai poussé 3-4 fois, je crois. Et puis voilà, elle m'a proposé de la sortir moi-même, ce qui était ce que je voulais surtout. Je trouvais ça trop cool, donc je l'ai sortie moi-même. Je l'ai mis sur mon ventre et tout. Et là, on s'est embrassé avec mon copain, avec le masque. On était comme des cons avec nos masques, on s'est embrassé avec le masque. Tu me relèves ton masque. Voilà, et c'est passé assez vite en final. C'était vraiment un accouchement comme je rêvais en fait. Après, je regrette pas du tout en fait, parce que là, je trouve que c'est con de se forcer à pas prendre la péri alors que t'es au bout de ta vie et que. En fait, faut être bien préparé, faut que l'accompagnant soit préparé, faut que tout le monde soit préparé quoi. À l'arrache comme ça, franchement, ça marche pas. En fait, je pense que si tu gardes dans ta tête l'option de prendre la péri un moment, tu la prends. C'est comme quand tu dis je vais faire un marathon, mais je suis pas sûre de le faire en entier. J'y vais comme ça, je me suis pas préparée, je le ferai peut-être pas en entier, tu le fais pas en entier.
Ouais.
Faut se conditionner, je pense, vraiment longtemps à l'avant. Puis moi j'avais peur de toutes les complications, j'avais peur qu'il y ait besoin de prendre la ventouse ou les spatules ou les forceps et que j'ai pas de péri, j'avais peur d'avoir une épisio et de pas avoir de péri, de tout sentir. Et au final, j'ai eu la péri, mais j'ai pas eu d'épisio, et du coup. C'est ça qui comptait le plus, je pense, pour moi. J'avoue.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie à l'aise tout de suite dans ton rôle de maman? Donc, j'ai une petite fille toute mignonne,
oui,
à côté de nous.
Qui s'appelle Léna et qui a 2 mois aujourd'hui. Bizarrement, alors, j'avais vraiment peur de mal vivre l'après-accouchement. Et au final, on est remonté dans la chambre. Et bon, là, mon mec a dû partir et en fait, il pouvait revenir le soir pour dormir avec moi. Et je me suis sentie tout de suite à l'aise en fait, et ça m'a vachement étonnée parce que j'étais pas hyper à l'aise avec les bébés des autres en général. J'étais pas à les prendre dans mes bras, enfin je trouvais toujours ça, j'avais toujours peur de les casser et tout. Enfin, les petits bébés, ça me faisait toujours peur. Et en fait non, je me sentais à l'aise vraiment direct, et ça m'a étonnée quoi. Je me suis dit waouh, je sais quoi faire, je sais comment m'en occuper, et ça sortait de nulle part quoi, alors que pourtant je suis persuadée que l'instinct maternel c'est pas du tout inné. Mais je trouvais ça cool direct. Je la trouvais trop belle. Elle était toute mignonne. Elle était sage. Enfin, il n'y a pas de bébé sage, mais je veux dire, elle pleurait pas. Elle était facile, quoi. Genre, la mise au sein, ils m'ont fait en salle de naissance. Ça s'est super bien passé direct. Même si c'était dur, hein, au début, l'allaitement, ça fait super mal. On va pas se mentir, c'est l'enfer. Hein, les 3 premiers jours, c'est...
t'as un peu envie de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je n'ai pas un biberon? Mais non, je me suis sentie à l'aise direct, franchement.
Et avec ton corps, alors?
Et ben, le moment tant redouté où ouais, je me suis levée assez rapidement après l'accouchement, j'ai appelé une aide-soignante directe parce que je voulais faire pipi. Et je m'étais dit, je me regarderai pas dans le miroir jusqu'à au moins jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et en fait, je l'ai fait direct parce que je suis trop curieuse. Donc les miroirs de maternité avec les néons dégueulasses et tout. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas si horrible. En fait, je me suis trouvée tellement énorme en fin de grossesse que finalement, j'étais contente. Enfin, j'avais un bidon, quoi. J'avais un bidon de 4-5 mois de grossesse, quoi, comme tout le monde, mais... Je pense que ce qui m'a aidée, c'est d'écouter des podcasts, en vrai. De savoir que c'était normal. De voir pas mal de photos sur Instagram, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de photos de... Il y a beaucoup de nanas qui se prennent en photo juste après l'accouchement, avec le slip filet et tout ça. Mm-hmm. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, je me suis dit, faut que je mette ça en story pour, pour que les gens voient que, voilà, c'est normal, quoi. T'as un petit bide, t'es un peu au bout de ta vie, mais... Je me suis dit, franchement, je pense que ça va le faire. Et j'ai fait confiance à mon corps, et au final, ça a dégonflé, voilà, comme tout le monde, hein, en 2-3 semaines, c'est bon, quoi. Même en... Non, mais le petit bidon de vraiment postpartum, ça disparaît. Après, la peau, elle est différente. Tout est différent. Mais c'est... En fait, je m'en fous. C'est ça qui est différent, surtout, c'est que... Une fois que t'as ton bébé, je crois que tu t'en fous un peu. Mmh. Et puis j'ai plus les mêmes... Je pense que quand t'as 20 ans, t'es très centrée sur le physique et tout. Puis plus tu vieillis et plus t'as... Après, quand t'as un enfant, tu t'en fous un peu plus quand même, je trouve. Enfin, moi en tout cas. Ce que je trouve dur, moi, c'est la poitrine, hein, que j'ai du mal à accepter. Mais avec l'allaitement et tout, je trouve ça... Puis j'ai eu des vergetures sur les seins et tout, avec la montée de lait. Bon, c'est la vie. C'est comme ça.
Et alors, à quel moment t'as pu reprendre le sport, toi qui es devenue du coup une très grande sportive?
Bah du coup, moi j'ai pris rendez-vous avec la sage-femme. Alors j'avais en tête qu'il fallait commencer la rééduc au bout de 4 à 6 semaines, donc j'ai pris rendez-vous au bout de 6 semaines pile. Et on m'avait dit à la maternité, ils m'ont dit pas de bain et pas de baignade avant 4 semaines. Et donc j'ai eu mon rendez-vous de rééducation à 6 semaines après l'accouchement. Et il s'avère que 4 semaines après l'accouchement, on est allé dans le sud pour aller déménager l'appartement de ma grand-mère qui habite dans le sud et qui est décédée pendant le confinement. Donc on est allé vider son appartement et on est allé à la plage et j'ai nagé au bout de 4 semaines du coup. 4 semaines et un jour. Je suis bonne élève, j'ai attendu les 4 semaines. Et ça s'est plutôt bien passé. Et la rééduc, en fait... Premier rendez-vous, la sage-femme m'a dit que ça allait, que j'aurais besoin de 5 séances et que globalement, si j'avais pas de symptômes à la marche rapide ou à la course, je pouvais refaire du vélo, de la natation. Elle m'a dit, de toute façon, la course, mais tu connais mon avis, Mathilde, de toute façon, c'est pas bon pour le périnée, tu connais mon avis, tu vas en faire qu'à ta tête. Mais globalement, elle m'a dit que j'avais pas de contre-indication, donc j'ai recouru un peu au bout de 5-6 semaines. 6 semaines.
Oui. T'as voilà. Des projets de course, là ou de...
Alors, en fait, c'est vrai que le confinement, enfin, le Covid, ça a décalé toutes les courses. Donc, moi, j'étais triste de ne pas pouvoir faire de course enceinte, mais finalement, toutes les courses ont été annulées donc, et ont été reportées. Et le marathon de Paris est reporté en novembre. Et donc, j'ai une de mes meilleures amies qui doit le faire, enfin, qui devait le faire et qui va le faire, du coup, en novembre. Et j'aimerais bien m'incruster dans la course et faire peut-être 15-20 km avec elle. Donc je verrai. Je pense que je vais laisser le triathlon de côté parce que j'ai pas envie d'aller faire des sorties vélo pendant 4 heures. Je me vois pas laisser ma fille. Enfin, c'est compliqué, franchement.
Ça a changé ton organisation, du coup?
Ouais, ça change pas mal. Je pense que je vais m'inscrire en club de natation à la rentrée et faire plus tôt de la natation. Parce que ça, c'est ça qui me... C'est mon sport de cœur, en fait. Avant la gym, je faisais un peu de natation. J'ai toujours nagé, et puis c'est mon truc, quoi. Mais donc, j'ai pas de projet de course à proprement parler, mais même si dans mes rêves, j'aimerais bien refaire un marathon des sables, mais c'est une course sur 6 jours dans le désert. Je voudrais faire le marathon des sables au Maroc, mais en fait, à l'époque où je l'ai fait, j'avais des sponsors et tout. Enfin, j'étais un peu dans un mood différent. là, si je veux le faire, c'est quand même de l'orga, il faut poser des jours de vacances. Enfin, voilà. Donc, on verra. Mais pas de pression. Je vais privilégier le sport santé, le sport plaisir. Et pas de pression, pas de course pour l'instant.
Est-ce que tu as pu trouver tous les conseils que tu voulais sur le sport pendant la grossesse, justement ?
Bah, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros manque. En fait, j'étais suivie à la maternité. Donc, normalement par des sages-femmes, mais il s'avère que moi, à chaque rendez-vous, j'avais. En fait, j'avais dit que ça ne me gênait pas d'être suivie par des internes, parce que je suis interne. Et je ne sais pas si c'est le fait que je sois interne moi-même ou quoi. Enfin, j'avais l'impression que, niveau suivi, j'étais un peu. Enfin, c'était un peu genre. Bon, bah, les prises de sang, tu connais, de toute façon, tu sais ce qu'il faut faire. Enfin, c'est limite, on ne faisait pas d'ordonnance parce que je me les faisais moi-même. Et du coup, je trouve qu'on me posait pas beaucoup de questions, mais je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais personne m'a jamais demandé si je faisais du sport, déjà, pendant ma grossesse. Donc j'ai dû l'amener un petit peu sur le tapis. En plus, moi, j'avais un col qui était ouvert assez tôt et tout, donc on me disait mollo sur la voiture, mais c'est vrai qu'à ma troisième échographie, non, ma deuxième échographie, je dis à la radiologue, elle me dit « Ouais, le col est un peu court quand même. » Je lui dis « Du coup, il faut que j'arrête de courir. » Elle me regarde, elle me dit « Mais... » C'est au sens propre, au sens figuré, courir. Je dis, bah non, courir, faire de la course à pied, quoi. Elle dit, ah ouais, bah là, oui. Hein. Enfin, elle dit, franchement, je suis assez laxiste et assez cool, mais là, il n'y a pas débat, quoi. Faut pas courir. Enfin. Et à la maternité, on m'avait jamais demandé si je faisais du sport et tout, quoi. J'ai lu les livres un peu de Bernadette de Gasquet, tout ça, sur le périnée et compagnie, mais non. Je trouvais qu'il y a un gros manque là-dessus, quand même. Puis sur Instagram... c'est bien et c'est moins bien d'un côté parce qu'on voit tout et rien, quoi. Il y a des nanas qui font des squats, sauter, des burpees avec un bide. Enfin, tu te dis là, c'est. Il y a des vidéos YouTube d'américaines qui font du sport, tu te dis, mais c'est quand même. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit très bon, quoi. Puis il y en a qui se comparent. Il y avait des filles qui m'envoyaient des messages sur Instagram, genre. Ma sage-femme m'a dit que je devais pas courir, mais je vois que toi tu cours, est-ce que tu penses que je peux courir? Bah. Enfin, vraiment, j'ai fait des posts en disant ne suivez pas les conseils des gens sur Instagram, quoi. Enfin, ouais. Moi, je pouvais, en l'occurrence, jusqu'à 5 mois. On me disait, bon, le col est long et tout, y a pas de souci, mais dès que la radiologue m'a dit, là, le col, il est court, enfin, personne peut donner des conseils à d'autres gens sur les réseaux sociaux, quoi. Il faut.
Oui, c'est important.
Tant qu'on n'a pas regardé le col, on peut pas donner de conseils, donc voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a à prendre et à laisser, quoi. Vraiment, parce que. Non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conseils fiables, en tout cas, dans mon entourage, sur Internet ou dans les livres. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de conseils sur le sport et la grossesse.
Donc toi, tu recommanderais d'en parler, tout simplement
Je pense qu'il faut en parler aux soignants, parce que les gens n'ont pas l'habitude de femmes enceintes qui font du sport, parce que c'est pas trop dans les mœurs, on va dire. Enfin, je pense que nos mères ne faisaient pas du sport enceinte, donc voilà, c'est de plus en plus fréquent, mais je pense qu'il faut en parler. Faut demander, il faut, faut se renseigner, mais non, des sources fiables, quoi, genre bah, auprès des soignants qui nous suivent, en fait. Je pense qu'il faut pas trop, et surtout faut pas se comparer à regarder des trucs. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des nanas américaines, c'est des coachs sportives, elles font des vidéos YouTube de fitness, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain, donc quand elles sont enceintes, elles continuent, mais est-ce que c'est bon ou pas, quoi, enfin, je sais pas.
Ouais, puis elles ont tout le suivi à côté.
Puis elles ont aussi à côté, ouais, quelqu'un qui leur a peut-être donné le feu vert, peut-être que, voilà. Faut s'écouter aussi. Genre moi, je l'ai senti, hein, que c'était pas bon de courir.
Ouais.
Au bout d'un moment, quand t'as envie de faire pipi au bout de 2 minutes de course, c'est qu'il y a quelque chose qui appuie sur ta vessie et que c'est pas forcément... c'est pas très bon, quoi. Mais bon, ouais. Pas se comparer, s'écouter, et puis écouter les gens qui vous suivent, en fait. Hein.
Et donc, toi, avec ta petite fille, est-ce que tu penses, justement, que tu vas être plus vigilante ou très vigilante sur son rapport à la nourriture, à son corps?
Bah, c'est vrai qu'à la base, quand je tombe enceinte, j'étais persuadée d'être enceinte d'un garçon. Je sais pas pourquoi, je pense que bah, inconsciemment, ça me stressait peut-être un peu d'avoir une fille. Au point que j'avais acheté des petits bodys de mec avant de faire la moindre écho. Et c'est vrai qu'autant je m'imaginais avoir un petit bébé et tout, autant l'adolescence, c'est un truc qui me fait un peu peur. Et d'autant plus avec une fille, et je pense qu'inconsciemment, ouais, ça... Ça me fait un peu peur. Après, du coup, je vais essayer d'être totalement neutre, quoi. Je me dis, il faut que j'essaye de pas du tout surveiller ce qu'elle mange, parce que c'est comme ça qu'on crée des trouble aussi. Mmh. En étant trop à regarder, enfin, à vouloir trop bien faire, on peut faire mal. C'est-à-dire que je pense qu'à trop vouloir dire mange, 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 et à surveiller, on peut faire l'effet inverse. Donc je pense que ouais, ça va être. On n'y est pas encore, mais ouais, il faudra que je prenne sur moi d'être totalement cool là-dessus.
Tu verras pas ton histoire.
Je sais pas. Mmh. Je sais pas. J'aimerais bien qu'elle fasse pas de gym et pas de danse classique. Mais... Après, il y a d'autres sports hein, qui mettent la pression sur le poids. Hein. Les sports de combat, les sports de... Je sais pas, si elle a envie de faire de la boxe, c'est pareil. Hein. Il y a les pesées et tout, mais... En tout cas, c'est sûr que j'essaierai pas de surveiller trop ça trop de près, mais je le surveillerai de loin sans lui dire, quoi. Mmh. Mmh. C'est un peu l'angoisse. Surtout actuellement, ce qui me fait peur, c'est surtout les réseaux sociaux, quoi. J'essaie de pas participer à ça. Enfin, moi, j'ai un compte Instagram, donc je me dis, ça se trouve, je participe à ça, quoi. Des fois, je mets des photos. Il y a forcément des nanas qui doivent se dire que... Tout le monde a l'air d'avoir une vie de ouf sur Instagram, donc j'espère que je participe pas à ça, au fait d'entretenir une culture du sport et de corps mince et compagnie, mais... Moi, j'ai peur de... Nous, on a eu des portables à 13-14 ans, je sais pas, mais là, maintenant... Quand je vois des gamines qui traînent sur Instagram à 8 ans et qui voient des nanas qui retouchent leurs photos, qui ont des abdos, alors que, enfin bref, ça entretient encore plus la culture de la minceur. C'est sûr que, franchement, ouais, c'est un stress. C'est pour ça que je pense qu'inconsciemment, je me disais qu'un petit gars, c'était peut-être moins atteint par ça, mais au final, est-ce que les mecs n'ont pas aussi des complexes? Je pense que oui. Hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est une vraie question que je me pose souvent.
T'en parles avec ton chéri, du coup ?
J'en parle avec mon chéri, mais lui, il est plutôt le genre à me dire « Oh là là, tu transposes tes angoisses, faut pas y penser. » Lui, c'est monsieur relax. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs.
Je sais pas s'il écoutera ça, je ne pense pas, mais...
Heureusement qu'il est là pour apaiser un peu. C'est le côté cool, et moi, je suis pas vraiment stressé, mais le côté réaliste, quoi, parce que lui, il est un peu déconnecté aussi, des fois, de tous les trucs... un peu trop déconnecté. Lui, il a pas du tout Instagram, il sait pas du tout ce que je fais sur Instagram.
D'accord.
Enfin, il me prend en photo des fois quand je fais du sport, donc il doit se douter que... Enfin, il sait, hein, mais il va pas voir, ça l'intéresse pas, il est pas du tout réseaux sociaux, et je trouve ça trop cool, quoi. C'est un mec nature.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Qu'est-ce que ça n'a pas changé? Non, ça change tout, hein. Ça change toutes les priorités. Et encore, là, j'ai pas recommencé à bosser, mais... Non, ça change tout. C'est vrai que la journée, elle est totalement tournée sur ton bébé. Je trouve ça trop bien, quoi. Mais ça met du sens, en fait. Tout passe au second plan. Moi, j'avais peur de devoir faire moins de sport. J'avais peur de pas être prête à faire moins de sport. Et en fait, je veux dire, c'est pas du tout comme si j'avais une entorse ou que je subissais le truc, quoi. Là, c'est voulu, je suis hyper heureuse. Ça me dérange pas du tout de troquer une séance de natation pour passer du temps avec elle. Et puis après, j'ai la chance d'avoir ma mère à côté qui, de temps en temps, voilà, deux fois par semaine, je la laisse à ma maman, une heure, je vais nager, je vais faire du vélo, je vais courir. Et dimanche matin, je l'ai laissée avec son papa, je tire du lait, je laisse un biberon. Bon, c'est de l'organisation. Hein, c'est-à-dire que la séance de natation, c'est un peu l'événement de ta semaine, quoi. T'as tiré du lait deux jours à l'avance, tu l'as mis au frigo, t'as préparé ton petit maillot de bain, t'as préparé le sac à langer... Tu l'as déposé chez ta maman une heure avant et tout. Enfin bref, c'est tout un truc, mais non, ça change tout. Ça change toutes les priorités. Et c'est trop bien.
Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Eh ben, du coup, bah nous, on a quitté Paris, on a quitté le 17e pour la banlieue. On est dans le 91, dans une petite ville. Et du coup... Je trouve qu'on a les avantages de Paris parce qu'on a tout à portée de main, à portée de RER. Mmh. Et on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, des poules et tout ça, des parcs. Donc être une maman parisienne, pour moi, c'est trop compliqué. Donc je préfère être une maman de banlieue parce que la vie à Paris, c'est trop stressant pour moi.
Quel est ton endroit kids friendly préféré ?
En banlieue, je dirais que c'est les parcs autour de chez nous où il y a des moutons, il y a une petite rivière et tout. Je pense qu'à l'avenir, ce sera à la piscine. On va y aller beaucoup parce qu'on va faire des bébés nageurs dès qu'elle aura l'âge. Et puis à Paris, la dernière fois, je suis sortie avec des copines à Ground Control, c'est hyper cool pour les enfants, je trouve. Même avec la petite en poussette, c'était top. Et les spritz sont très très bons.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
En famille, on va faire nos premières vacances là dans le sud. On part 2 semaines près de Toulon, à la plage. Et rien que pour moi, bah, j'aimerais bien faire une course, comme j'ai dit tout à l'heure, un gros trek dans le désert ou un truc où je pars vraiment toute seule pendant plusieurs jours, mais c'est compliqué. Et en fait, je sais pas si ça va être réalisable avec la petite ou si j'aurai envie. Donc peut-être un prochain marathon, mais dans pas mal de temps.
Merci beaucoup Mathilde.
Ben, merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Mathilde, retrouvons-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode pour parler de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.